Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche encore sur les ondes de Radio Courtoisie que nous remercions de nous accueillir depuis plus d'un an. Si nos émissions vous intéressent et afin que cette chaîne radio vive, n'hésitez pas à les soutenir en faisant un don sur le site dans l'onglet « Nous soutenir ». Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir l'association Marie de Nazareth qui œuvre à faire connaître et aimer la Vierge Marie par de multiples moyens. Vous pouvez vous rendre sur notre site mariedenazareth.com. Alors aujourd'hui, dernier dimanche avant Noël, déjà, Justina, vous nous ferez la lecture et le commentaire de l'évangile de Luc au chapitre 1.
Tout à fait, oui, bonjour.
Bonjour Justina. Puis nous recevrons Aymeric de Malécy qui évoquera tout ce qui se déroulera pour le 600e anniversaire des apparitions de Saint-Michel-Archange à Sainte-Jeanne d'Arc. Bonjour monsieur.
Bonjour France.
Il est aussi l'auteur de Jeanne d'Arc, Pourquoi Dieu choisit la France, dont nous parlerons longuement. Et je serai très heureuse de parler de ce livre dont nous parlerons en deux fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dont nous retrouverons le mois prochain pour en parler encore. Alors Justina, entrons à présent dans ce texte.
Oui, bonjour. Donc nous allons lire le texte lu dans le rite Paul VI, Luc chapitre 1, versets 39-45. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors qu'elle poussa un grand cri et dit « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Car vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé à mes oreilles, l'enfant a tressaillé d'allégresse dans mon sang. Oui, bienheureuse est celle qui a cru en l'accomplissement de celui qui a été dit de la part du Seigneur. On s'approche de la fête de la Nativité. Il était donc inévitable de choisir la lecture qui nous met dans l'avant-goût de la fête. Le passage qui précède la lecture d'aujourd'hui est celui de l'Annonciation, et l'Annonciation mène à la Nativité mène à Pâques, et la Pâques nous amène au salut. Mais pour changer, j'aimerais aborder un sujet dont on parle peu, le parallélisme et le rapport entre Jean-Baptiste, l'enfant qui a tressailli dans le sein d'Élisabeth, et Jésus-Christ qui a suscité ce mouvement de Jean. Premièrement, on dit Jésus-Christ. Le Christ n'est pas un nom de famille, mais un titre. Christ dérive du grec Christos, ce qui est une traduction du Mashiach en hébreu, le Messie. Mashiach littéralement signifie « loin », celui qui a reçu l'onction. Mais quand est-ce que Jésus a reçu son onction et de qui? Selon les attentes messianiques pharisiennes, le Messie doit être un leader politique et religieux. Il doit chasser les occupants et faire prospérer Israël. Dans le monde entier, ou ne serait-ce que dans le Proche-Orient. Selon les attentes messianiques et séniques, on parle du Messie souffrant, le Messie qui est à la fois le grand prêtre lui-même, mais selon l'ordre de Melchisédek et non celui de l'ordre de selon Aaron. Je rappelle que le clergé du Temple se transmet par hérédité. Les 12 tribus d'Israël, au moment de l'Exode et leur arrivée en terre promise, se partagent les territoires. Seule la tribu de Lévi en est privé, car leur ministère est celui du temple, et ils doivent se nourrir des offrandes faites au sanctuaire. Mais peu importe l'idée du Messie selon les courants du judaïsme de l'époque, l'essentiel est que pour prétendre à ce titre, de toute manière, le Messie doit recevoir l'onction de la part d'un membre du clergé du temple. On sait que Jésus ne correspond pas à l'attente messianique pharisienne. Au lieu de chasser les Romains, il parle de son royaume qui n'est pas de ce monde, et il se laisse crucifier. Très clairement, la perception chrétienne de la messianité se rapproche de celle des Esséniens. Vous allez me dire, mais de quoi vous parlez, Justina? La question du début, c'est quand et par qui le Christ est oint? Par le Saint-Esprit. Mais au moment où Jésus reçoit son baptême auprès de Jean-Baptiste. Ici, on relit l'évangile selon Luc. On apprend que Jean-Baptiste est lui-même fils de Zacharie, prêtre du temple de Jérusalem, donc légalement parlant, il est descendant d'Aaron et donc il est prêtre de sa naissance. Vu la description du mode de vie de Jean-Baptiste, il ne suit pas la tradition familiale et il ne devient pas prêtre au temple, mais il mène une vie ascétique dans le désert et il a des disciples. On pourrait dire que Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes, mais le premier des folles en Christ. Les biblistes d'aujourd'hui supposent que Jean-Baptiste a rejoint la tradition essénienne. Et c'est là où tout se croise. Dans la tradition orthodoxe, on surnomme Jean-Baptiste comme Jean le précurseur et dernier prophète. Et effectivement, Jean et Jésus sont cousins germains. Jean vient au monde 6 mois avant Jésus, ce qui peut justifier notre calcul de la date de la nativité. On en a parlé lors de l'émission de la nativité. Jean est le premier à prononcer la phrase « Repentissez-vous car le royaume des dieux s'approche ». Jean porte la fourrure de chameau, l'habit traditionnel des prophètes vétérostémentaires, et il est comparé au prophète Élie et il annonce la venue du Messie. De plus, il prépare même sa venue et y participe pleinement à la révélation de Jésus dans sa messianité, justement lors du baptême. Jean subit le martyre avant Jésus, il est son précurseur même dans la mort. Et ce n'est pas de la poésie pure, c'est très concret. Le cercle se renferme, les prophéties anciennes s'accomplissent, certes de manière qui ne correspond pas totalement aux attentes humaines, fortement primitives, mais c'est là. Et c'est à partir de là qu'on parle véritablement de la nouvelle alliance, car quelque chose se termine et autre chose, quelque chose de totalement nouveau commence. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre évangile ni de nouveaux prophètes. Nous sommes passés à autre chose. Le problème est que chaque être humain était à son propre stade d'évolution et ce n'est pas facile à sortir de ces préjugés qui paraissent tellement naturels à notre ancien Adam qui déchu, qui vit toujours en nous. Le but est de pouvoir dire en pleine conscience et sincérité ce qu'a dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
Merci beaucoup, Justina. À présent, écoutons ce très bel Alléluia de la messe de minuit à l'abbaye de Boulors.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
C'était donc l'Alléluia, Dominus Dixit des Sœurs de Boulors. Alors à présent, comme je vous le disais en début d'émission, j'ai la joie d'accueillir Aymeric de Malessy. Vous êtes auteur du remarquable livre Jeanne d'Arc, Pourquoi Dieu choisit la France. Déjà, le titre m'a beaucoup plu. Membre de l'Académie Sainte-Jeanne d'Arc, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Et pour aller un petit peu plus loin, ça m'a bien intéressé, vous organisez des camps pour les anglophones, les Américains peut-être plus particulièrement, non? Avec votre Académie Saint-Jean of Arc?
Oui, alors elle est encore en cours de construction, cette Académie. Mais c'est bien le but, c'est de faire venir des étrangers en France pour leur faire découvrir notre patrimoine spirituel français.
Voilà. Oui,
et donc, qui dit étranger, dit effectivement des anglophones, en tout cas des gens qui parlent l'anglais, puisque nul n'est censé ignorer l'anglais aujourd'hui.
Et c'est pour des jeunes ou alors
Alors oui, c'est
plutôt,
pour,
hein.
Pour l'instant, pour des jeunes plutôt, mais dès qu'on pourra, on essaiera de passer à des adultes, à toute personne qui souhaite découvrir notre patrimoine spirituel.
Je regardais votre site et je voyais que c'était très varié en fait ce que vous proposerez.
Oui, on propose des formations sur 9 jours, 15 jours. On en proposera peut-être de plus longues d'ailleurs aussi. Mais l'idée, c'est en fait, c'est une académie itinérante. Voilà.
Oui.
Donc, on propose des déplacements et ces déplacements donnent lieu à des enseignements.
Ça fait beaucoup de bien de voir la France rayonner à l'étranger.
Oui, je pense que il se trouve que j'ai habité aux États-Unis et c'est là que j'ai constaté notamment que la France continue de rayonner dans le domaine spirituel. En tout cas, aux États-Unis, c'était frappant vis-à-vis des catholiques américains. Voilà. Je crois que malheureusement, la France a perdu à peu près son rayonnement
à peu près
partout, peu d'exceptions près, je pense. En tout cas, pas dans le domaine spirituel catholique.
Eh bien, tant mieux si d'une manière, nous sommes encore un petit peu la fille aînée de l'Église.
Voilà, oui, cette expression, elle est connue à l'étranger.
Oui. Oui. Très bien, tant mieux. Alors, commençons par ce 6e centenaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage?
Oh ben, ce que je peux vous en dire, c'est que nous sommes tout un groupe avec l'association des Amis de Jeanne d'Arc et d'autres associations qui nous soutiennent. Je ne pourrais pas toutes les citer, elles sont nombreuses. Nous sommes
L'association Marie de Nazareth.
Marie de Nazareth, merci, bien sûr. Nous sommes en train de monter la célébration, une grande célébration pour le 6e centenaire des apparitions, puisque vous savez que nous sommes même rentrés depuis 2012, c'est-à-dire depuis le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne, mais nous sommes rentrés dans la grande période du 6e centenaire de Jeanne. Et jusqu'en 2031, nous allons organiser des événements pour marquer ce 6e centenaire. Et le premier grand événement qu'il s'agit de célébrer, c'est bien sûr celui des apparitions.
Oui.
Vous savez que Jeanne nous dit, alors on n'est pas d'ailleurs très certain de la date, on ne la connaît pas avec certitude, mais on a quand même de sa part un certain nombre d'indications qui nous permettent de situer ces apparitions autour de l'été 1424-1425. Voilà. Les deux hypothèses sont tout à fait possibles. Et donc Jeanne nous dit que c'est dans le jardin de son père au temps de l'été qu'elle a eu pour la première fois la voix de l'archange Saint-Michel. D'ailleurs, au passage, je tiens à rappeler à nos lecteurs, il suffit de lire pour cela le procès de condamnation, mais il n'y a pas que Saint-Michel qui lui apparaît, d'autres anges, et en tout cas Gabriel aussi lui apparaît. Voilà. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler. Elle le dit. Voilà. Et bien sûr, Sainte Catherine d'Alexandrie, que nous fêterons d'ailleurs lundi, Sainte Marguerite d'Antioche sont les deux grandes saintes qui lui apparaissent.
Très bien. Alors, lorsque je préparais cette émission, je regardais un petit peu les dates retenues et je m'étais posé la question sur la fête des patriotes, du patriotisme sous l'égide de Sainte-Jeanne d'Arc. Et alors, j'étais très étonnée et contente de voir que cette fête avait été confirmée le 18 avril 2023, ce qui est très récent. Finalement, c'est assez étonnant que nous puissions, dans les temps actuels, garder ce genre de fête de façon officielle. Mais alors, je me dis que peut-être le 11 mai prochain, vous aurez Jean-Louis Thériault, qui est le ministre du tutelle des anciens combattants, qui sera à vos côtés, même si je crois, ces dernières années, les officiels ne bougeaient pas trop. Mais peut-être que pour le 6e centenaire...
Oui, alors ça sera pas le 6e centenaire des victoires de Jeanne d'Arc,
oui, hein,
puisque là, il faudra attendre 2029. C'est peut-être plutôt à cette occasion que les autorités se déplaceront.
Ah, oui.
Là, nous sommes encore avec le 6e centenaire des apparitions dans un événement très spirituel.
Oui,
pour le coup.
Vous avez raison. Vous faites bien de le dire.
Et donc, nous les fêterons en septembre, hein, cette année, ce 6e centenaire.
Alors, oui,
à Domrémy. Puisque fin septembre, le 29 septembre, c'est la fête de Saint-Michel. Donc, nous prenons appui sur cette fête-là. Alors, comme malheureusement, ça sera un lundi, ben, on fera ça le week-end juste avant, le 27-28.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation?
Alors,
vous attendez
non,
beaucoup
de monde? Non, je
préfère
attendre encore un petit peu. Enfin,
oui.
Voilà, c'est très bien de dire et d'annoncer déjà
l'événement. Alors, réservons la date.
Réservez la date. Oui, ce sera un événement sur 2 jours. Vous pourrez venir à Domrémy découvrir les lieux de l'enfance de Jeanne. Il y aura une veillée de prière, une procession, j'espère une nuit d'adoration, grand-messe. Voilà, donc nous sommes en train de monter tout ça.
Oui, c'est déjà avancé.
Voilà, donc réservez la date. Et si vous venez, il faudra être en totale autonomie, hein, parce qu'à Domrémy, il n'y a pas grand-chose pour dormir sur place. Et donc, il faudra prévoir son duvet.
Voilà. Et c'est difficile de s'y rendre aussi. Enfin, c'est pas encore très.
Alors oui, il y a pas de gare à Domrémy. Oui. Domrémy, c'est un tout petit village. Hein. Oui. C'est voilà, c'est encore presque dans son jus tel que ça devait être il y a 600 ans.
Mais il faut
ans,
le garder dans son jus.
Ah oui, c'est magnifique. C'est hein, ce coteau de Meuse est absolument magnifique.
Oui. Alors, votre livre Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France, je vous ai demandé si nous pouvions faire cette émission en deux fois, parce que lorsque j'ai lu le livre, il y avait tellement de choses à dire que c'était dommage de ne pas creuser sur certaines choses. Alors, tout le monde connaît sa vie, enfin, je dis tout le monde, ceux qui sont intéressés en tous les cas par Sainte Jeanne d'Arc connaissent sa vie, ses exploits. Donc nous ne reviendrons pas particulièrement dessus, mais j'aimerais beaucoup que vous évoquiez ce parallèle que vous faites entre la vie du Christ et celle de Sainte Jeanne d'Arc. C'est quand même saisissant.
Eh bien, écoutez, oui, ça fait d'ailleurs une excellente transition avec ce que Justina vient de nous dire. Hein. Ce n'est plus le Christ qui, enfin, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, Saint Paul aux Galates. Ça peut tout à fait se dire de Jeanne d'Arc. Et alors, j'ose effectivement dans mon livre proposer cette idée et peut-être un peu l'affirmer pour ce qui me concerne. Je me permets de le faire, mais quelle est la sainte qui a le plus ressemblé à Jésus? Vous voyez. Et je pense que c'est assez démontrable. Alors, quand je dis ça, je ne me situe pas sur le plan de ses vertus pour dire qu'elle aurait été plus héroïque et plus semblable à Jésus qu'un saint François d'Assise ou une sainte Cécile de Rome que nous fêtions hier. Enfin, non, je dis simplement que dans la vie de Jeanne, les événements qu'elle n'a pas choisi de vivre la configurent au Christ d'une manière que je pense inégalée. Je peux vous en donner plusieurs exemples.
Oui,
bien sûr, elle est pour commencer, à ma connaissance, la seule sainte avec Jean-Baptiste et la Sainte Vierge, et bien sûr avec Jésus, qui soit annoncée par des prophéties historiquement attestées.
Oui.
Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Voilà. Jeanne d'Arc, vous prenez le dictionnaire de Philippe Contamine, Olivier Bouzig, Xavier Hilary, qui sont des historiens très sérieux. Vous avez tout le référencement de ces prophéties qu'il annonce, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est accueillie au départ par Charles VII. Colette Beaune le montre très bien, elle est accueillie comme une prophétesse, et parce qu'elle est annoncée par des prophéties. Alors il y a les prophéties de Saint Jean de Brinlington, de Merlin, prophéties pardon, son nom m'échappe, enfin bref, prophéties aussi de Marie d'Avignon, etc. Il y a tout un ensemble de prophéties qui annoncent l'arrivée de Jeanne. Charles VII avait reçu Marie d'Avignon qui lui annonçait l'arrivée de Jeanne. Oui. Donc déjà, elle est annoncée par des prophéties. Ensuite, elle naît le jour de l'Épiphanie, selon un témoignage que l'on a. Donc elle naît dans le temps de Noël, le jour de la fête des rois, ce qui semble annoncer ce que sera sa mission. Hein, la royauté du Christ est au cœur de sa mission. Elle naît dans un petit village qui s'appelle Domrémy, Domrémy, Domus, hein, Domus la maison, Saint-Rémy, mais comme Jésus naît à Beth, la maison, les M du pain, oui, voyez, tout est comme ça. En fait, toute la vie de Jeanne va être comme ça. Elle est à 12 ans, alors peut-être 13 ans, c'est pas très bien, mais elle a ses révélations. Comme Jésus a 12 ans, c'est un événement marquant dans sa vie. Jésus a 12 ans, il est devant les docteurs du temple. Ben Jeanne a 12 ans, elle a ses apparitions qui lui confient cette mission. Jésus a 12 ans, il doit être aux affaires de son père, il le dit à ses parents, et Jeanne, eh ben, elle doit aller en France. Elle doit aller aux affaires du père aussi, sauver le royaume de France. Et tout est comme ça, elle va être...
les apparitions, l'ange.
Alors bien sûr, apparition de l'ange. Elle est, on peut aussi la comparer à Marie à bien des égards. Elle est la seule sainte qu'on peut identifier par sa virginité avec la Sainte Vierge. Si vous parlez de la pucelle et de la Vierge, je n'ai pas besoin de donner un prénom.
Oui.
C'est unique. Elle est cette sainte qui va, bon, les blessures, ses blessures de guerre, elle a le pied transpercé, elle est blessée à la tête, etc. Rappelle aussi celle du Christ. Elle est condamnée à ses 3 années de vie publique. Hein, rigoureusement 3 années.
Oui, alors ça, c'est quand même étonnant.
Mai 1428 à mai 1431. Mais 1428, c'est sa première apparition à vos couleurs, où elle tente de convaincre le sire de Baudricourt de la laisser, de lui accorder un sauf-conduit pour aller voir le roi. Ces 3 années de vie publique, elles suivent un enchaînement qui est tout à fait comparable à celle du Christ. Hein. Il y a je dirais qu'il y a même le temps de la joie, c'est le temps de l'enfance, suivi du temps des temps lumineux où elle est au devant de la scène et où elle est dans la phase conquérante, si vous voulez, la phase où tout lui réussit. Et puis il y a le temps de la douleur. Et puis après, vous avez le temps de la gloire qui, après sa mort, et quand elle est canonisée. Donc vous avez ces trois temps. C'est 4 temps en l'occurrence, et un parallèle très étonnant entre la vie du Christ et la vie de Jeanne, avec le fait, par exemple, qu'elle va être condamnée par un grand prêtre de sa propre religion.
Oui.
pays, soutenu par un véritable sanhédrin, qui est le, alors qu'il peut être soit l'université de Paris, soit le tribunal qui est à Rouen. On peut, dans les deux cas, on a un sanhédrin d'une certaine manière. Pour le compte d'une autorité supérieure politique, et en l'occurrence ici exercée par Bedford, qui a à peu près le rôle de Pilate, hein, cochon ayant le rôle de caïphe. Pilate, il exerce l'autorité pour le compte de l'empereur, comme Bedford, il exerce l'autorité pour le compte du roi d'Angleterre. Enfin, on peut faire des parallèles étonnants. Elle est vendue comme Jésus, elle est trahie très probablement, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais ça y ressemble, en tout cas. Enfin voilà, oui, ce parallèle, jusque dans sa mort est très étonnante. Le dernier dialogue que l'on connaît de Jeanne, c'est le dernier dialogue de Jésus.
C'est sur le bûcher.
C'est pas sur le bûcher. Le bûcher, on a ses paroles, mais on n'a pas un dialogue, c'est-à-dire un échange.
Ah oui, pardon.
Le dernier dialogue, c'est donc quand elle rencontre le matin Maître Pierre Maurice, qui est celui qui vient lui annoncer. Elle ne le savait pas, hein, qu'elle allait être condamnée. Elle savait qu'elle s'attendait à être condamnée, mais elle ne savait pas que ce serait le matin même où on le lui annonce. Voilà. Donc elle apprend qu'elle sera brûlée le jour même. Et elle dit à Maître Pierre Maurice qui vient le lui annoncer, « Maître Pierre, où serai-je ce soir ?» Et Maître Pierre lui dit, « N'avez-vous pas bonne confiance en Dieu ?» Et elle lui répond, « Oh oui, par la grâce de Dieu, ce soir je serai au paradis. » Oui, ce soir avec moi, tu seras au paradis.
Oui.
Enfin, vous voyez, tous les événements, il n'y a pas choisi. Hein. Elle n'a pas choisi de naître le jour de l'épiphanie. Mmh. Elle n'a pas choisi. Enfin, oui, ça s'impose à elle, tout ça, d'une certaine manière. C'est ça qui est remarquable. Et donc, on a une configuration au Christ qui est absolument, je pense, unique à ce point, hein, à ce point de ressemblance. Et encore une fois, je parle d'événements qui s'imposent à elle. Qui me paraît tout à fait unique. Et donc, on rejoint cette citation que nous faisiez tout à l'heure de saint Paul aux Galates, hein, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ça se voit avec Jeanne d'une manière étonnante.
Oui. Vous faites très bien ce parallèle, c'est vraiment très intéressant.
On pourrait le faire encore longtemps. Hein. Il y a tellement d'autres choses à dire à ce sujet. Hein.
Il y a encore beaucoup de choses.
Oh, oui. On peut dire par exemple qu'elle calme le vent sur la Loire, c'est comme ça qu'elle rentre d'Orléans. Hein. Elle calme les vents contraires, nous dit Dunois dans le procès de réhabilitation. Oui. Alors, c'est ce que nous dit Saint-Marc, hein, les vents contraires, etc. Donc oui, on peut continuer pendant longtemps. Elle a, comme Jésus, par exemple, elle annonce de sa capture prochaine. Jésus, il sait qu'il va être arrêté. Et Jeanne le sait, elle l'apprend dans les fossés de Melun. Vous voyez. Donc on peut
oui, elle ressuscite un enfant aussi.
Elle ressuscite un enfant. Alors du moins, dit-elle, parce qu'elle a toujours cette humilité de tout rendre à Dieu, elle dit qu'elle s'est jointe à la prière de plusieurs femmes qui pleuraient, c'était à Lagny. Qui pleurait la mort d'un enfant qui était mort sans avoir pu recevoir le baptême. Et donc, elle se joint tout simplement à leur prière. L'enfant ressuscite, il bâille, il retrouve des couleurs, on le baptise et il meurt de nouveau. D'ailleurs, ça lui sera presque reproché hein, dans son procès de condamnation, parce que comme pour Jésus, on lui reproche ce qu'elle a fait de bien, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est assez étonnant, cet aveuglement de ses juges. Mmh. Et donc, Cochon va l'interroger, puisque bien sûr, ce miracle lui est déjà parvenu aux oreilles, et voilà. Donc, ce qui prouve aussi l'authenticité de ce miracle, d'ailleurs.
Oui. Ah, oui. Alors, nous avons juste évoqué la Vierge Marie tout à l'heure. Elle était très attachée à la Vierge Marie. Du reste, sur son étendard, figurait...
Jésus-Maria.
Voilà, c'est ça, oui. Et vous disiez, donc, il y a un parallèle avec la vie de la Vierge Marie. Donc, Annonciation, virginité... apôtre de la royauté du Christ. Est-ce que vous faites autant de parallèles avec la Vierge Marie qu'avec le Christ ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse en faire autant, parce que c'est vraiment avec Jésus que les événements la font configurer. Et puis, on connaît quand même très bien la vie de Jésus par les évangiles.
Bien
donc,
sûr,
vous voyez, on a plus d'éléments qui nous permettent de la comparer. Peut-être que si on connaissait mieux la vie de la Sainte Vierge dans les détails, on pourrait faire aussi des parallèles étonnants.
Oui. Non, c'est très étonnant et très intéressant. Alors déjà, nous arrivons à la fin de cette émission. En tous les cas, pour cette première partie, la prochaine fois, j'aimerais beaucoup que nous évoquions le côté stratège de Jeanne d'Arc, vraiment reconnue par des militaires chevronnés, vous nous dites, hein, dans votre livre. Et nous pourrons comme ça approfondir le sujet... la France choisie par Dieu, cette terre de prédilection, hein, très vite devenue terre catholique après la mort du Christ, et puis l'arrivée de Sainte Jeanne d'Arc. Alors on dit que, juste une petite question, que Sainte Jeanne d'Arc reviendra ?
Écoutez, je ne sais pas si elle reviendra. Ce que je sais, c'est que le Christ est vainqueur et que Jeanne est dans l'armée du Christ. Voilà.
Bon, merci beaucoup, Aymeric. Donc, ce livre « Jeanne d'Arc, pourquoi Dieu choisit la France » avec une préface de Mgr Rey chez Via Romana, je vous le conseille. À la semaine prochaine, très joyeux Noël, chers auditeurs. Joyeux Noël, Justina.
Joyeux Noël,
Aymeric. Et à bientôt.